Parlons maintenant de cette proposition qu'a fait Bernard Drinville cette semaine sur la privatisation du transport en commun. On vous demande est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Puis on s'est dit, on va essayer de creuser la question avec notre invité, Pierre Barriot, qu'on accueille à l'instant, expert en planification des transports à l'Université de Montréal. Bonjour, Pierre.
Bonjour.
Il y a un petit moment qu'on s'est parlé, ça nous fait plaisir de vous accueillir à nouveau. Si vous le voulez bien, Pierre, on va entendre ce qu'a déclaré Bernard Drinville à cette émission mardi.
Puis moi, je suis convaincu que la concurrence entre le privé et le public peut faire en sorte qu'on va avoir des meilleurs prix, puis on va avoir du meilleur service. Puis le genre de grève qu'on a connue, là, qui avait aucun bon sens, aucun respect pour les gens qui allaient, qui avaient besoin de l'autobus. Tu sais, ce monopole syndical, là, ben si tu mets du privé là-dedans, à un moment donné, il va falloir que les syndicats comprennent qu'ils ne peuvent plus prendre pour acquis que c'est eux qui vont toujours avoir le travail puis qui vont toujours avoir les circuits.
Vous le trouvez comique, M. Drinville? M. Barriot?
Pierre?
Ah, je vous dirais, il amène des débats intéressants sur la place publique, mais parfois, il faut les décortiquer un peu plus parce qu'il y a plusieurs choses qui s'entrecoupent.
Bien alors voilà, décortiquons la chose. Privatiser les transports en commun au Québec, est-ce que c'est une chose possible? Il faut savoir, le contexte est important, là. Il y a 10 sociétés de transport en commun au Québec. Et les plus importantes, là, évidemment, les plus importantes de ces sociétés, elles sont la STM, la STL à Laval, le RTL à Longueuil, le Québec RTC, Gatineau, Société de transport de l'Outaouais. En fait, Bernard Drinville, selon l'extrait que vous avez entendu, s'insurge contre le monopole syndical. Mais est-ce que, parce que lorsqu'on parle, on pense à privatisation, Pierre, on pense à meilleure efficacité, moins de coûts d'exploitation, une meilleure fréquence, une meilleure qualité dans le service qui est livré. Est-ce que c'est possible d'atteindre tous ces objectifs en privatisant nos réseaux de transport collectif?
Pas nécessairement. La première chose, il faut se rappeler, au Québec, historiquement, les transports collectifs étaient 100% privés. Et ils étaient devenus déficitaires, donc ils ont été municipalisés ou régionalisés.
Ah bon?
Par exemple, l'enseigne de la STM, c'était privé de 1861 jusqu'à 1951. Donc, il y a eu 90 ans de privé et le système devenait tout simplement insoutenable économiquement. Il était incapable de faire les investissements nécessaires et donc, ça l'a été municipalisé. Et on est comme ça depuis. Les services en banlieue, eux, ça a duré beaucoup plus longtemps. En fait, c'était le ministre Clair du Parti québécois, après l'élection de René Lévesque de 1981, qui va mettre en place un système où ils devront aussi prendre en charge les transports collectifs de banlieue. Alors, pas STM, STL, RTL à Montréal, mais ce qui était plus loin. Et on va créer ce qui s'appelait à l'époque les CIT puis les OMIT, qui vont devenir plus tard l'AMT et après EXO. Donc, ce système-là est toujours en opération en privé. La loi au Québec est claire. Les 10 sociétés de transport en commun public ont l'obligation que leur système soit opéré par le public et toutes les lignes du privé, toutes les autres lignes doivent être opérées à contrat par le privé. Donc, on a un comparatif. C'était Michel Clair qui avait mis ça. Dans le fond, on prenait en charge les lignes de banlieue, mais on continuait à donner les contrats aux firmes qui les avaient opérées avant.
Oui, OK, mais la situation actuelle, ce n'est pas celle que vous décrivez, là.
Oui, c'est toujours comme ça, en fait. Okay. Si vous habitez Belleuil, si vous habitez Saint-Jérôme, Drummondville, votre transport en commun est déjà opéré à contrat. C'est illégal à ces territoires-là de les opérer eux-mêmes.
Ah, bien, EXO, c'est la même chose?
Exactement.
Voilà.
EXO, tous les services sont opérés par le privé.
Mais lorsque Bernard Drinville parle de privatiser le transport en commun, là, c'est pas, il ne vise pas ça, il ne vise pas EXO, là, il ne vise pas les banlieues, il vise la STM puis nos grandes sociétés de transport. Mais est-ce que c'est réaliste?
Je vous dirais, les exemples peinent à démontrer nécessairement l'utilité ou la pertinence de la privatisation. On a présentement, si on regarde justement, EXO a des problèmes majeurs de recrutement. Ils ont des problèmes plus importants de non-disponibilité des véhicules et du service. Et le coût, lorsqu'on compare des pommes avec des pommes, pas des pommes avec des oranges, on arrive à des coûts qui sont similaires, que ce soit le public ou le privé. Parce que c'est vrai, dans le public, il y a une certaine bureaucratie supplémentaire, les salaires sont plus élevés, mais il y a moins les marges de profit qui sont nécessaires que le privé a. Et les, tu sais, c'est vraiment un pendule, un balancier à travers le monde. Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? En Europe, on balance massivement les réseaux actuellement à cause des règles de l'Union européenne pour aller vers le privé. Mais on n'arrive pas à des gains significatifs de manière générale.
Si on fait juste penser à l'exemple, par exemple, à l'exemple de Montréal et de ses structures, on l'a vu avec le REM, on l'a vu avec les navettes qui ne relèvent pas du REM, mais des partenaires, la RTM. C'est tellement peu agile. Est-ce qu'on ne vient pas complexifier davantage avec la proposition de M. Drainville?
Mais c'est certain que ça vient ajouter une couche supplémentaire. Le REM, c'est un bel exemple aussi. Transport collectif privé, c'est la Caisse de dépôt qui l'opère avec ses partenaires. Donc, c'est pas un réseau public, c'est un réseau privé. Donc, on est vraiment là. C'est malheureusement, c'est un débat que tu sais, Margaret Thatcher avait emmené d'un bord, qu'ensuite on a ramené de l'autre. Mais malgré tout, le problème, c'est pas tant le privé ou le public. C'est oui, il y a un manque de flexibilité dans les conventions collectives de la STM. Et ça, il y a du travail qui doit être fait. Mais les coûts de la STM en termes d'opération sont très compétitifs dans l'échiquier nord-américain.
Il y a un auditeur qui nous écrit, on va privatiser quoi? Les chauffeurs, l'entretien? C'est une bonne question, là, parce qu'il y a le grand principe de la privatisation. Puis je rappelle, Bernard, là, ce qui l'a frustré, c'est la grève des employés d'entretien. Et puis ça a plongé, évidemment, ça a fait suer les usagers, les clients, devrais-je dire, de la STM. Mais on ne peut pas proposer la privatisation uniquement sur la base d'une frustration là, liée au fait qu'un syndicat exerçait ses moyens de pression. Mais si on essaie de creuser tout ça, effectivement, on privatise quoi, en fait, lorsqu'on privatise le transport en commun?
Et c'est ça qui est le problème. Si on regarde, par exemple, à Londres, les autobus sont opérés par le privé. À l'époque, dans quoi j'ai regardé, il y avait 7 différents contrats. Donc, les compagnies soumissionnaient dessus, mais les autobus appartenaient toujours à la ville. Et quand ça venait au métro, le Underground de Londres, par exemple, ils avaient regardé à transférer en partenariat public-privé et le transfert vers le privé d'énormément d'opérations. Et tous les contrats ont été annulés et ont été obligés de tout ramener dans le giron du public, dû aux faillites des opérateurs et à toutes sortes de problèmes.
Donc,
pas toujours facile, là.
Ben en fait, on a toujours dit que c'est impossible de rentabiliser le transport en commun. Parce que c'est un service
ça, c'est
public.
Certain.
Mais si on part de cette prémisse, M. Barriot, Pierre, bon, c'est vain d'imaginer un jour qu'on puisse privatiser le transport en commun.
Ben, c'est-à-dire que c'est privatisé l'opération, mais il va quand même être déficitaire à 60-70%, c'est certain. Donc, malgré, même si on le privatise, il va quand même avoir les transferts de milliards de dollars qui vont aller des coffres publics vers les opérateurs privés. Parce que jamais on pourra arriver à un système qui est rentable en termes des titres des passagers. Ça, c'est le passager, dépendamment des réseaux à travers le monde, il paye habituellement 30 à 60 dans des très rares exemples. Par exemple, les trains de banlieue à Londres, les derniers chiffres que j'ai vus, c'est les usagers payent environ 80 %. Mais là, on a des passes qui sont plusieurs centaines de dollars par an.
Je me ferai pas beaucoup d'amis avec ma question, mais si on regarde ce que vous nous dites par rapport à l'exploitation, par rapport à tout ça, c'est que nos salaires, les salaires des gens qui y travaillent, est-ce qu'ils sont rendus démesurément trop haut par rapport au marché?
Je vous dirais, au Québec, on a fait le choix d'avoir une classe sociale moyenne forte. On a fait le choix que les gens qui avaient des emplois de type col bleu, par exemple, et aussi des cols blancs, avaient des salaires décents qui leur donnaient un niveau de qualité de vie qui était digne de la Révolution tranquille. Et je vous dirais, je ne suis pas certain que la population québécoise aimerait qu'on s'arme massivement dans les salaires de ces employés-là, parce que quand on va commencer, on va découvrir, bien, c'est la grande majorité de la population qu'il faudrait sabrer dans leur salaire. Et là, on arrive dans une courbe de spirale de décroissance des salaires vers le bas. Et on arrive après ça dans des crises sociales comme qu'on peut avoir dans certains États américains, par exemple.
Oui. Le temps file, Pierre. Moi, j'ai une question concernant les dépenses d'exploitation. Vous avez certainement pris connaissance de cette étude menée par le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal en 2023. Francis Veil avait fait un excellent papier là, en novembre 2023 pour résumer la chose. Là, on dit que, dans cette étude, on concluait que les dépenses d'exploitation par kilomètre parcouru pour Montréal, à Montréal, pour la STM, en faisait le réseau le plus coûteux. 9,63 $ par kilomètre contre 9,56 $ à Vancouver, 7,54 $ à Toronto. Et là, on dit que les quatre sociétés du Québec comparées qui n'ont pas de réseau de métro sont aussi bien au-dessus de la moyenne canadienne. Donc, au Québec, là, les dépenses d'exploitation des sociétés de transport par kilomètre parcouru, là, ici, on est champion de toute catégorie. Donc, on n'est pas efficace de ce côté. Est-ce que les choses se sont améliorées depuis?
Ils se sont pas nécessairement grandement améliorés parce qu'il faut comprendre, un des problèmes qu'on a, c'est la vitesse à laquelle nos véhicules circulent, nos autobus. Nos autobus à Montréal sont plus lents qu'ailleurs. On a moins de voies réservées, on a moins de feux de circulation prioritaires et c'est très compliqué, là, mais nos îlots en ville sont plus petits, donc on a plus d'intersections par kilomètre parcouru. Donc, tout ça fait en sorte que notre réseau d'autobus, il est plus lent parce qu'on a sous-investi dedans. Lorsqu'on combine cela avec d'autres facteurs opérationnels, on arrive quand même à des coûts nord-américains qui sont intéressants. Mais c'est certain, les coûts sont élevés, mais ils sont élevés partout. Il y a toutes sortes de facteurs qui s'incluent dans le coût kilométrique, mais c'est pas aussi facile et aussi simple que ça quand on commence à regarder plus en détail les coûts réels des paramètres d'opération.
Réaction de nos auditeurs, plusieurs disent ben, le problème, c'est les syndicats qui sont trop puissants, la force des syndicats. Sylvain nous écrit à Saint-Jean-sur-Richelieu, le service est privé, les autobus appartiennent à la ville et ça va bien. C'est sûr qu'il n'y a pas la densité à Saint-Jean et l'affluence qu'on est ici à Montréal ou à Québec ou à Longueuil ou à Laval, mais il y a déjà là un modèle qui est intéressant. Beaucoup de réactions de nos auditeurs. Dans le fond, ce qu'on comprend là, en terminant, Pierre Barriot, c'est que privatiser le transport collectif, c'est plus facile à dire qu'à faire.
C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Les gains sont beaucoup plus petits que ce qu'on pourrait croire. Et c'est plutôt regarder est-ce qu'il y a d'autres solutions. Durant les grèves de la STM, il y en a qui disaient est-ce que ça va être un service essentiel? Est-ce qu'on devrait aller en médiation automatique? Est-ce qu'on devrait... Il y a des façons qu'on peut quand même donner le droit d'avoir des échanges de contractuels qui sont corrects sans brimer le citoyen.
Il y a un auditeur qui dit « Remplissez les autobus et les trains quand ils sont vides gratuitement. » Les gens vont sentir, vont développer un sentiment d'appartenance par rapport au système. Moi, j'aime bien l'idée d'offrir la gratuité en dehors des heures. Je ne sais pas si c'est intéressant, en terminant. Je suis comme un politicien.
Ça
prend trois fois avant de conclure. Oui. Ah oui, puis?
Oui, il y en a qui l'ont essayé en banlieue de la Rive-Sud, entre autres. Il y a des opérateurs que c'est gratuit pour les déplacements locaux. Et effectivement, les mesures sont très intéressantes, mais il faut se rappeler, la gratuité, ça coûte très, très cher. Et les études disent que par dollar dépensé, mieux vaut améliorer le service que donner la gratuité. Il y a plus de gens qui vont changer leurs habitudes.
Savez-vous quoi, Pierre? On va envoyer le tape, comme on dit à mon Québécois, à Bernard. On va lui envoyer le lien de ce segment. Il pourra approfondir ses connaissances en matière de fonctionnement de transport en commun. Merci beaucoup.
Merci. À bientôt.
Au revoir. À bientôt. Pierre Barriot, qui est expert en planification des transports à l'Université de Montréal. La privatisation, c'est très à la mode ces temps-ci, là. On veut faire des PPP dans le secteur d'éducation. C'est Christine Fréchette qui le propose. Bernard en transport collectif. Mais moi, je ne suis pas contre l'idée des PPP, mais encore faut-il que ce soit réaliste et faisable.
Il y a quelqu'un dans la messagerie texte qui a écrit « S'ils veulent se pratiquer à privatiser, qu'ils commencent donc avec la SAQ. »
Oui.
Écoute, je suis quand même pas en désaccord avec ce texto-là.
Ça fait longtemps qu'on discute de la possibilité de privatiser la SAQ. D'ailleurs, Éric Duhem a écrit un livre sur le sujet. Ville de Sainte-Julie, transport en commun est gratuit en tout temps. C'est Alexandre qui nous l'écrit à Chambly, même chose, c'est gratuit dans la ville. Le transport collectif de Shawinigan est privé, ils ont vécu une grève de quelques semaines dernièrement, alors non, ce n'est pas la meilleure solution, nous écrit François. Merci pour vos nombreuses réactions, toujours un immense plaisir de vous lire.